Donc le point I, le goût pour la philosophie ou l'éthique chrétienne, l'éthique de vie chrétienne. Pourquoi j'ai choisi ce point? Parce qu'en fait, je dois vous avouer qu'il y a certains comportements dans l'Église qui me dérangent, des uns et des autres qui me dérangent. Et je veux qu'on change ça, je veux qu'on s'améliore. Parce qu'on est des enfants de Dieu et on est appelé à grandir, à se développer et à abandonner certaines choses qui ne conviennent pas quand nous marchons devant Dieu. Et ces points-là, quand je réfléchissais, je me suis dit, mais ces points-là, ils sont liés à quoi? En fait, c'est lié à l'éthique. L'éthique et la philosophie de vie. Alors, on peut se demander, c'est quoi l'éthique? Si on se pose la question, est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est que l'éthique? Comment est-ce que vous pouvez définir l'éthique? Non, vous savez pas? Justement, l'éthique, si on regarde la définition dans le Robert, moi je vous donnerai ma définition à moi, selon on va dire selon la vie chrétienne, selon la doctrine chrétienne. Mais je vais vous donner la définition d'abord, celle qui est donnée dans le dictionnaire français. L'éthique fait référence à la science de la morale. La science de la morale. Vous pouvez noter, hein, c'est important. C'est la science de la morale. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est ensemble des conceptions morales de quelqu'un, d'un milieu. Deuxième définition, ensemble des conceptions morales de quelqu'un, ou d'un milieu. Alors, donc, quand on dit l'éthique, l'éthique, ça peut être un nom, c'est une désignation, donc un nom, tout comme ça peut être aussi un adjectif. Donc quand on dit que cette personne est éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Ou cette chose, ou cette loi, elle est éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a deux définitions aussi. Donc là, il y a deux définitions aussi. Il y a une définition qui dit que c'est quelque chose qui concerne qui concerne le moral. Donc on parle dans ce cas-là des jugements éthiques, qui est intègre, c'est quelque chose qui intègre des critères moraux dans son fonctionnement. Et là, on parle, par exemple, de commerce éthique. Voilà. Donc, si on regarde ces définitions, le point commun, c'est la morale. C'est quelque chose qui est moral. Alors, donc, on revient maintenant à nous dans la vie chrétienne. Cette éthique, cette morale-là, c'est une ligne de conduite. En France, quand on dit on veut être, on veut, enfin en France, on va dire dans la société, quand on dit qu'on est moral, ça veut dire c'est quelqu'un qui respecte certains principes de vie qui sont des principes, je dirais, corrects par rapport au savoir-vivre, au savoir-être dans la société, qui respecte les uns et les autres dans la société, qui respectent les normes et les standards de la société, qui sont corrects par rapport à ces normes et ces standards. Ça, c'est une personne qui est morale. Si on dit que en France, on ne doit pas se promener nu, l'éthique, on dit d'une personne qui est éthique, bah, cette personne va respecter cette règle de vie qui est de ne pas se promener nu. Ça, c'est de l'éthique. Si on dit qu'en France, on va pas avoir, on ne doit pas avoir plusieurs femmes, on ne doit pas être polygame, ça, c'est la loi française, mais en même temps, c'est aussi de l'éthique. C'est-à-dire que je ne vais pas aller dire à plusieurs femmes, voilà, je t'aime, je dis si je t'aime, là-bas je dis je t'aime. Quelque part, ça pose un problème moral, n'est-ce pas? C'est pas moral de faire ainsi. Donc, c'est ça l'éthique. C'est qu'on respecte les règles, les règles de vie dans la société et aussi les principes de vie qu'on s'est défini dans la société où on se trouve. L'éthique dépend de ces règles. Donc, ce qui est éthique en France n'est pas forcément éthique ailleurs. D'accord ? N'est pas forcément éthique ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça dépend des règles de vie de l'endroit où on se trouve et de la société dans laquelle on se trouve. En France, par exemple, un homme qui met une jupe, par rapport à la morale française, c'est bizarre. C'est bizarre. Et aller au travail en jupe pour un homme, ce n'est pas éthique. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que la société française définit certains standards, donc certaines normes de vie ensemble et de fonctionnement dans tel endroit, dans tel domaine, dans telle situation, comment est-ce qu'on doit réagir. Et ces normes et ces règles de fonctionnement sont faites pour qu'on les respecte, pour que tous ensemble, on puisse marcher correctement. Et ça, c'est très important. C'est très important. Donc, si on le rapporte à Dieu, ça veut dire qu'en Dieu aussi, on a des règles et des principes de vie et des normes qu'on a, que Dieu nous définit ou que l'Église définit, que les frères et sœurs définissent et que nous devons tous ensemble respecter. C'est ça qu'on appelle l'éthique chrétienne. Et ces normes sont avant tout des normes qui sont édictées par la Bible, donc par la parole de Dieu. Quand on parle de l'éthique chrétienne, c'est se dire, ma morale à moi, elle doit se conformer aux normes et aux règles qui sont définies dans la parole de Dieu, dans les Écritures de Dieu. Pour vivre avec mes frères et sœurs, pour marcher avec les frères et sœurs, pour fonctionner avec les frères et sœurs. Et ces normes et ces standards, on doit chercher à les connaître si on ne les connaît pas. Et quand on les connaît, on doit chercher à les appliquer. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que si on vit ici, on est dans notre église ici à Lyon, on a un fonctionnement. Demain, si vous vous déplacez, vous allez à Montpellier. Il faut savoir appliquer les normes d'éthique chrétienne. Si vous savez les appliquer ici, quand vous allez arriver à Montpellier, vous n'aurez pas de problème. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que vous appliquez ici, qui est fondé sur la parole de Dieu, qui est fondé sur les principes que le Seigneur nous a définis, vous allez les appliquer aussi à Montpellier. Et vous ne serez pas perdu. Et vous n'allez pas non plus perdre les autres frères et sœurs. Vous voyez ? L'éthique va dans ces deux sens. Ça me permet, moi, de savoir quelle est la ligne de conduite à suivre. Et donc, quelle est la ligne de conduite à suivre donc, pour marcher correctement. En même temps, ça permet aux autres qui me suivent de savoir que je suis dans la même ligne de conduite que eux. C'est comme sur la route. En France, on a défini le code de la route, n'est-ce pas? Je parle à certains étudiants qui font le permis de conduire. Donc, on a défini le code de la route. Pourquoi on a défini le code de la route? C'est pour que tout le monde conduise de la même façon. C'est pour que les automobilistes entre eux se comprennent aussi. Et c'est pour éviter qu'il y ait des incidents graves. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, si vous tournez, il est important de mettre le clignotant avant d'engager la manœuvre de tourner. Parce que vous allez informer aux personnes qui sont derrière vous que je m'apprête à tourner. Donc, faites attention. Et en même temps, moi, ça me sécurise parce que je sais qu'eux savent que je vais tourner. Et je vais ralentir, donc tout le monde ralentit parce que je vais tourner. On a défini que si le feu il est orange, je vais me préparer à m'arrêter parce qu'il va passer au rouge. Donc du coup, tous ceux qui sont derrière, qui voient le feu devant moi, qui devient orange, se disent « Ah, celui-là va s'arrêter ». Donc, moi aussi, je dois m'arrêter. En fait, ça fixe un langage commun dans une situation pour tout le monde. Donc, l'éthique chrétienne, c'est ça. C'est que nous devons arriver à avoir un même langage qui nous permet de nous comprendre dans une certaine situation. Alors, quelles sont les situations que nous, chrétiens, nous avons à vivre? Si je vous pose des questions... Quelle situation que nous avons à vivre en tant que chrétiens? Tout ce que vous voyez comme situation que nous vivons ensemble ou tout seul, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Tout.
Oui.
Quoi?
La présence à l'église.
La présence à l'église. Ça, c'est une situation qu'on vit ensemble. Quoi d'autre? Là, la communion fraternelle, ça c'est une situation qu'on vit ensemble. Quoi d'autre?
Le moment de culte.
Le moment de culte, ça c'est une situation qu'on vit ensemble. Ça rejoint la présence à l'église. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Tous les événements qu'un chrétien peut vivre dans sa vie chrétienne au quotidien. Aujourd'hui, la prière, c'est une situation qu'on peut vivre ensemble ou tout seul. Quoi d'autre?
La louange.
Quoi d'autre?
L'enseignement, comme maintenant.
L'enseignement aussi, comme maintenant. Quoi d'autre?
Le partage,
comme maintenant. Quoi d'autre?
Hein? L'évangélisation.
L'évangélisation, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait dimanche après le culte? Les agapés. Les agapés. On peut visiter les frères et sœurs. On a dit la prière, on peut jeûner aussi ensemble. Voilà. Déjà, là, on a pas mal de situations. Mais dans ces situations-là, on a besoin de se comprendre, n'est-ce pas? On a besoin de savoir comment nous marchons ensemble, n'est-ce pas? Pour donner une indication correcte aux autres, comme on a dit tout à l'heure, de la même façon, on parlait du code de la route. Donc, la façon dont je me conduis, les autres aussi regardent, parce qu'ils se disent, ah, on est ensemble, on va dans la même direction. On a une même ligne de conduite. Donc, je regarde l'autre. Donc, c'est moi qui suis regardé, dois donner une bonne indication à l'autre qui me suit. Parce qu'il regarde... où est-ce qu'on va? On va dans la même direction. Et moi aussi, je regarde celui qui est devant moi. Donc, je regarde aussi mon frère, je regarde aussi ma sœur. Et je sais que nous devons aller dans la même direction. Ça, c'est l'éthique. Et moi, j'ai dit que l'éthique chrétienne, elle est liée à la conscience. Elle est liée à notre état de conscience. La conscience que nous avons envers Dieu, la conscience que nous avons les uns envers les autres, la conscience des autres en fait, la conscience de notre environnement, la conscience de notre temps aussi, et la conscience de l'espace où on se trouve. Ça rejoint l'environnement. Mais l'environnement prend en compte beaucoup d'autres choses. L'espace, c'est le lieu. Ça rejoint, c'est englobé dans l'éthique. Parce qu'en fait, on disait tout à l'heure que cette éthique est liée à un lieu donné. Alors, maintenant, si on reprend la même chose, est-ce que Si on prend la situation dans le monde, est-ce que j'aurai la même conduite dans une salle de sport que dans un hôpital? Pourquoi, selon vous, je n'aurai pas la même conduite?
En fait, oui, on peut avoir la même conduite, mais il faut... Enfin, si tu te changes un peu, parce que ce n'est pas le même environnement, donc peut-être que la manière de traiter les choses seront différentes.
Ouais. Donc, on n'aura pas forcément la même conduite parce que la manière de traiter les choses sera différente. Pourquoi cette manière sera différente?
Parce que les deux environnements sont différents.
Ouais.
Une salle de sport, on peut par exemple circuler comme on voudrait, mm-hmm. toucher un peu à tout. Mm-hmm. L'hôpital, c'est pas le cas. Il y a des pièces auxquelles on n'a pas le droit en tant que patient, déjà même en tant que. Mm-hmm. On ne peut pas y accéder, on ne peut ouais. pas toucher à tout.
Ouais.
Et même déjà, notre façon de parler, je dois déjà changer au sein de la structure.
Tout à fait. Donc, le lieu. Et son usage aussi, du coup, le lieu et son usage va conditionner notre façon de faire là où on se trouve. Donc, à l'hôpital, il y a des malades. Le point capital, il est là. C'est qu'il y a des gens qui sont malades. Des gens qui sont malades. Donc, notre conduite doit être pour protéger les malades, mais aussi pour nous protéger, nous, et protéger les soignants. Parce que si moi, je vais toucher des choses qui ont été manipulées et qui sont contaminées, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me contaminer. Et je vais certainement contaminer d'autres personnes. Tandis que si je suis dans une salle de sport, qu'est-ce qu'on fait dans une salle de sport?
On fait du sport.
On fait du sport. Donc, il y a certains sports qui vont faire des bruits.
Et puis d'autres qui seront,
d'autres qui seront peut-être un peu plus calmes. Donc, il y a des sports où on va faire beaucoup de gestes, beaucoup de mouvements. Il y en a d'autres où ça va être peut-être plus léger. Donc là, encore une fois, on voit que l'usage du lieu conditionne la façon dont on réagit dans ce lieu. Ça aussi, c'est l'éthique. C'est-à-dire, ma conduite va prendre en compte l'environnement où je me trouve et l'usage de cet environnement, comme je disais tout à l'heure, l'usage de cet environnement. Et je vais m'adapter. Alors, si on le transpose, nous, dans l'Église, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons dans l'Église?
C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons?
Ouais, simplement. C'est une question simple, hein. Il n'y a pas de piège. Qu'est-ce qu'on fait dans une Église?
On prie.
On prie.
On parle, on partage,
d'accord.
On respecte.
Ouais.
Et on écoute,
oui. On écoute, on prie, on partage, on écoute, on chante, on danse parfois. Ouais. Et aussi, plus important, on va rencontrer Dieu. Ça, c'est le plus important. C'est très important d'avoir ça en tête. La première chose que nous allons faire dans une église, c'est rencontrer Dieu. Non pas que Dieu habite dans l'église, mais c'est parce que c'est la règle, c'est la conduite que Dieu nous a définie. Il a dit, vous allez vous retrouver pour prier, pour écoutez l'enseignement, la parole que moi je vous donne, donc, comment dire, les règles que je vais vous définir pour marcher de mieux en mieux devant moi. Donc, vous allez à l'église pour me rencontrer et moi, quand vous êtes là, je vais me manifester. Je vais vous communiquer quelque chose. Donc, ça, c'est très important. Et on doit avoir ça en tête. Je vais à l'église pour rencontrer Dieu. C'est le plus important. Et je l'avais dit la dernière fois, en tant que serviteur de Dieu, notre conscience doit être éveillée là-dessus. Qu'est-ce que nous allons faire à l'église? Nous allons rencontrer Dieu. Nous allons vivre quelque chose avec Dieu. Donc, si les gens viennent à nous, ils doivent venir dans cette attitude. En tout cas, nous devons les mettre dans cette attitude. Quand on reçoit les gens, on les accueille dans l'amour, dans la joie, dans la paix, et on doit les conduire à rentrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est là. Ça, c'est l'éthique chrétienne. Et cette présence de Dieu, elle nécessite qu'on ait certaines, comment dire, qu'on ait certains égards, c'est-à-dire une certaine tenue. La dernière fois, j'avais défini ça, que comment est-ce que nous nous approchons devant Dieu en tant que serviteurs. Notre apparence, notre attitude, notre façon de penser, ça doit être en accord avec la vision de Dieu, avec les attentes de Dieu. Ce n'est pas pour être légaliste, mais c'est savoir que notre Dieu, c'est un Dieu qui gouverne. C'est le roi des rois. Il règne de toute éternité. Donc, nous ne rentrons pas dans la présence d'un ami humain. Nous ne rentrons pas dans la présence d'un enfant. Nous ne rentrons pas dans la présence d'un homme. Nous rentrons dans la présence du Créateur, celui qui nous a créés et qui gouverne toutes choses. Donc, on doit avoir des égards devant lui. Si nous avons des égards devant Macron, devant le roi Charles, hein, si on a des égards devant ces hommes, c'est-à-dire que quand on vient devant eux, on ne se tient pas n'importe comment, alors devant Dieu, ça doit l'être encore plus. 10 fois plus, 100 fois plus. Parce que c'est celui qui nous crée, qui nous donne la vie. C'est celui qui nous a sauvés de la mort. On aurait pu se perdre et aller en enfer. Mais Dieu a jugé que c'était bon qu'il nous garde dans sa présence. Donc on doit avoir une ligne de conduite qui est différente quand on est dans le monde. On doit avoir une ligne de conduite qui est différente quand nous sommes devant les hommes. Là, ça parle de nous. Ça veut dire c'est à l'intérieur. Et l'éthique est liée à la conscience. La conscience, elle est personnelle, n'est-ce pas? Elle est personnelle. C'est moi dans ma tête, comment je comprends les choses, comment je conçois la vie, comment je conçois l'environnement où je suis. C'est pour cela que je disais, la première chose, c'est que nous devons éveiller notre conscience à Dieu. On doit éveiller notre conscience à Dieu. On doit demander à Dieu de nous montrer de nous donner une conscience des choses, de nous donner une conscience de ces choses à lui, de nous donner une conscience de ces hommes, de ces enfants, de ces filles, de ces garçons. On doit demander à Dieu de nous donner cette conscience. On doit demander à Dieu de nous donner la conscience de la valeur des âmes qu'il nous envoie, de la valeur de ce que nous faisons. Quand nous prions ensemble, quand nous marchons ensemble, quand nous étudions la Bible ensemble, quand nous nous réunissons, on doit demander à Dieu de nous révéler la valeur de ces choses. Si Dieu nous révèle, si nous avons la révélation, alors nous aurons la conscience de ce que cette chose, de ce que c'est ce moment que nous vivons ensemble. On a dit tout à l'heure que l'éthique nous permet de suivre une direction. Donc, ça indique à ceux qui sont derrière nous que nous suivons une direction. Et nous-mêmes, on regarde ceux qui sont devant, qui suivent une direction. Comme sur une route, nous, on peut avoir une direction et il peut y avoir d'autres personnes à côté de nous qui ont une autre direction, qui ne suivent pas la même direction que nous. Nous, nous sommes en Christ. Il y a des gens qui sont dans le monde qui suivent une autre direction. Il y a des gens qui sont musulmans qui suivent une autre direction. Il y a des gens qui sont hindous qui suivent une autre direction. Les athées suivent une autre direction. Donc les athées n'ont pas la même éthique que nous. Les non-sauvés n'ont pas la même éthique que les sauvés. Les gens, comment dire, les agnostiques, les déistes, toute forme de croyance, ces gens-là n'ont pas la même éthique que ceux qui sont dans Christ. Parce que la Bible, elle dit quoi? Si une personne est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc nous n'avons plus la même éthique que ceux qui sont dans le monde. Et ça doit être notre référence. Ça doit être notre référence. Pourquoi nous allons prier le dimanche? On va au culte le dimanche. Pourquoi vous venez ici le lundi? Pourquoi vous venez à la prière le mardi? Pourquoi vous venez à l'étude biblique le vendredi, aux enseignements du mariage le mercredi? Pourquoi on fait ça? Quelle en est la conscience? Quelle est la valeur de ces choses? Si on comprend la valeur de ces choses, alors on ne va pas réagir, on ne va pas les faire, comment dire, de la même façon que quelqu'un qui ne comprend pas la valeur. Pour quelqu'un qui est dans le monde, tu lui dis viens à l'église dimanche, pour lui ça n'a aucune valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a aucune valeur. Que j'aille à l'église ou que je n'y aille pas, ça ne change rien pour moi. Cette personne préfère rester dans son lit parce qu'il trouve que c'est mieux, je veux me reposer, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la semaine et aujourd'hui c'est mon jour de repos, je veux dormir. Pour moi, c'est mieux de me reposer et de dormir. En soi, ce n'est pas mauvais. C'est son éthique, c'est sa ligne de conduite. Parce que c'est lié à sa conscience. Mais pour nous, est-ce que nous avons la même conscience que cet homme, que cette personne? Où est-ce que nous mettons ce temps de dimanche? Quelle valeur nous donnons à ce temps de dimanche? Est-ce que c'est juste un temps qu'on donne à Dieu? On considère qu'on donne à Dieu 1 heure et quelques. Ou on considère que c'est un temps important parce que Dieu est notre créateur, parce que Dieu nous a donné la vie, parce que Dieu tient à nous et il nous aime. Et s'il nous aime, il veut passer du temps avec nous. Il veut prendre ce temps avec nous. Et nous le mettons à une place importante. Ou tout simplement, on se dit, oh, le culte, c'est bien, mais bon, aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas y aller. Aujourd'hui, j'ai d'autres occupations, je ne vais pas aller au culte. Je vais faire autre chose. Les gens du monde, le dimanche, pour eux, c'est un jour comme un autre. Ou c'est peut-être un jour spécial, dans une certaine mesure, parce que c'est un jour où ils se reposent, ils n'ont pas de travail. Mais en soi, ça pourrait être le lundi ou le mardi, ça changerait rien. Parce qu'ils auront 24 heures où ils pourront faire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que le dimanche, il est important pour le chrétien? Qu'est-ce qui fait que le dimanche est important pour nous? C'est la même chose. C'est la réponse à cette question est la même pour tous les autres moments que nous vivons en Christ, pour tous les autres instants, pour toutes les situations qu'on a listées tout à l'heure. C'est la même. C'est la même réponse. Pourquoi on prie? Pourquoi on est dans la communion fraternelle? Pourquoi on se réunit dans l'assemblée? Pourquoi on se retrouve dans l'église? Pourquoi on loue Dieu? Pourquoi on adore Dieu? Pourquoi on chante? Pourquoi on danse pour Dieu? Pourquoi on fait les choses pour Dieu? Tout ça, c'est la même réponse à toutes ces choses. Si nous considérons que bah, j'ai fait ça, c'est pas grave, pas de souci. Pas de souci. Mais alors, quelle valeur nous donnons à Dieu? Quelle position nous donnons à Dieu? Quelle est notre conscience par rapport à Dieu? Je ne parle pas de moi ni des autres, je parle de moi. Je ne parle pas des autres par rapport à nous, je parle de nous, personnellement, moi, à l'intérieur. Comment je vois Dieu? La façon dont je vois Dieu, c'est cette façon qui va conditionner ma marche avec lui, qui va conditionner mon éthique devant lui. Les gens du monde, quand ils disent, moi, je fais du sport parce que le sport, ça me fait du bien, ils ne dérogent pas à leur éthique. Ils s'y tiennent parce que c'est important pour eux. C'est important de faire du sport. Mais nous, les chrétiens, on est capable de déplacer le temps, hein, le temps qu'on a donné à Dieu, parce qu'on estime que c'est un temps important. Il y a un commandement de Dieu qui nous dit de nous réunir. Nous, ce temps-là, on peut le déplacer au gré et comme on veut. Tiens, je ne vais pas aller à l'église ce dimanche. Je vais faire autre chose. Ah, mais j'ai prévu autre chose. Moi, personnellement, depuis que je suis chrétien, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Enfin, depuis que je suis chrétien, mais depuis que j'ai compris qui est Dieu, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Que le dimanche, je reste à la maison. Et Dieu merci parce qu'il me fait grandir dans ce sens. Je ne suis pas parfait, mais en tout cas, il me fait grandir encore et encore. Il ouvre mes yeux et il me donne cette conscience. Et aujourd'hui, je veux que vous ayez la même conscience, que vous puissiez accéder à cette conscience. Quelle est la place de choses que nous faisons? Est-ce que quelqu'un du monde, prenons un exemple, quelqu'un du monde qui fait son sport, vous pensez que si vous lui dites « ne fais pas ton sport aujourd'hui, viens à l'église », quelles sont les probabilités que cette personne accepte? Dites-moi. Combien de chances vous pensez que la personne va accepter? Soyons honnêtes. Peut-être qu'elle va accepter, mais dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Il y a combien de pourcentage de probabilité pour que cette personne accepte de ne pas faire son sport qui est planifié et de venir à l'église? 20%.
Non, c'est beaucoup chaud. Enfin, ça dépend de la personne, je sais pas.
Ouais. Quand je parle de quelqu'un du monde, c'est un athée, hein. C'est une personne qui ne croit pas. Hein.
Ah, excuse-moi, j'avais pas entendu.
Ouais.
5%. Ouais.
Junior?
Elle a besoin de
Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais combien de chances, si tu devais donner un pourcentage de chances pour que la personne accepte, combien tu donnerais?
Je ne suis pas Dieu pour connaître ici le cœur de la personne.
Bon, combien de personnes, ton ami musulman, tu l'as invité combien de fois?
Je l'ai invité, je lui ai parlé, je crois que je l'ai invité deux fois.
Ouais.
La première fois, je lui ai parlé et la deuxième fois, il m'a dit oui, qu'il va venir voir.
Et est-ce qu'il est venu?
Il m'a appelé, quand moi, ce dimanche, je ne suis pas venu.
Oui.
Il m'a appelé, il a dit, il s'est été bien préparé, il m'a appelé, il m'a dit, oui, tu es où? Il était même à la porte, tu es où? On m'a sécurisé, désolé, je ne suis pas là.
Ouais.
Et on n'a pas la salle, quoi.
Et donc, pour toi, c'est normal, on n'avait pas la salle, le pauvre s'est préparé, il allait venir à ton église, mais tu lui dis, on n'a pas la salle, désolé. Tu penses qu'il va revenir, d'ailleurs?
Si, il va revenir.
Il va revenir. Et comment il te voit maintenant?
Il sait qu'il va me regarder bizarrement.
Il va te regarder bizarrement.
Ouais, ouais.
Parce que lui, quand il va à la mosquée, il sait que c'est la prière, il y va. Qu'il neige, qu'il pleuve, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est ça, l'éthique. Tu vois? Eux, ils respectent leur éthique. Donc, là, tu l'as appelé deux fois. Si on fait le calcul mathématique, il a accepté une fois, ça fait 50%. 50%. Donc, ce n'est pas 100%, c'est 50%. Mais là, tu lui as parlé plusieurs fois à ton ami. Mais il faut voir. Moi, j'en ai plein. J'ai Marcel qui habite ici. Hein. Le nombre de fois que je l'ai invité, il était venu une fois. Mais sur combien de fois que je l'ai invité? Parce qu'il a son éthique. Il a ses choses. Moi, j'ai un ami, quand j'allais évangéliser, il trouvait toujours quelque chose pour me dire, ah, ce samedi, on va faire ça. Est-ce que tu peux m'accompagner à aller faire telle chose? Au moment où moi, j'allais évangéliser. Ou au moment où j'ai la prière, il me dit, ah, mais je voudrais que tu m'accompagnes à aller faire une course là-bas. Toujours. Mais moi, quand c'est le moment de sa prière à la mosquée, et je lui dis, ah non, aujourd'hui, je ne peux pas. Le vendredi, tu sais, c'est pas possible. C'est pas possible le vendredi. C'est de ça que je suis en train de parler. Quelle conscience nous avons devant Dieu de ce que nous faisons? Où est-ce que nous mettons ces choses? L'éthique chrétienne fait que nous devons avoir une ligne de conduite devant Dieu. Devant Dieu. Pas devant le pasteur. Pas devant le frère, la sœur. Devant Dieu. Et c'est Dieu qui nous regarde. C'est Dieu qui nous voit. Et c'est lui qui a fixé les règles de vie que nous suivons. C'est lui qui a fixé ces règles de vie. C'est lui qui nous demande d'être enseignés. C'est lui qui nous demande de nous rassembler pour prier. C'est lui qui nous demande de vivre la communion fraternelle. C'est lui qui nous demande de marcher ensemble, de nous soutenir, de prier les uns pour les autres. Ce que nous faisons, c'est Dieu qui le demande. Et cette éthique, c'est la conscience que nous devons avoir devant Dieu. Moi-même, moi je le disais, moi j'ai du mal à déplacer un dimanche pour faire autre chose. Même, vous êtes là, hein, dites-moi le nombre de fois où vous êtes venu à l'église et que je n'étais pas là. Le nombre de fois. Parce que pour les frères et sœurs, on se dit, ah, c'est pas grave. Mais imaginez si le pasteur, il fait ce que vous faites. Le pasteur, il se dit, bon, aujourd'hui, il fait froid ou j'ai autre chose, je ne vais pas venir. Comment est-ce que vous allez vivre le culte? Qui va prêcher? Qui va faire ce que le pasteur y fait? Ouais, c'est une question.
Hein? On va rester chez vous.
Vous allez rester chez vous. Hein? Non? Vous allez vous retrouver, mais du coup, qui va faire ce que le pasteur il fait d'habitude?
Bah, si tu préviens que tu n'es pas là, bah, je vais prier ailleurs en attendant. C'est comme par exemple, des fois, quand il n'y avait pas la salle et que vous partiez loin,
ouais.
Je me levais quand même pour aller dans une autre église.
Bien sûr.
J'avais besoin de prier.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas la même chose, le regard est différent. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent cette conscience-là de dire, bon, bah. Pasteur, s'il ne vient pas, oui, ça va choquer les gens parce que, en tant que brebis, on va dire, bah, on ne se pose pas trop la question en fait.
Ben oui, mais moi, ça me choque que celui qui doit accueillir n'est pas là. Ça me choque. Autant que vous, ça vous choquerait que je ne sois pas là. Ça me choque que celui qui doit préparer les chants n'est pas là. Ça me choque que celui qui doit s'occuper des instruments et autres ne soient pas là. Ça me choque tout autant que vous. Mais du coup, on attend à ce que le pasteur supporte plus que les brebis, j'imagine. Mais est-ce que je suis moins choqué que vous, vous pensez?
Non,
je pense pas. Ben voilà. Alors, du coup, on revient à la question. Tu me disais, moi je vais prier ailleurs. La question maintenant, c'est pourquoi on se réunit dans une église? Si, à la limite, je peux aller dans n'importe quelle église. Qu'est-ce qui fait l'importance de se réunir dans cette église ici? Qu'est-ce qui rend ça important?
Bah, C'est notre église. C'est notre église.
C'est notre église. Donc, si je veux me réunir ailleurs, je ne serai pas dans mon église. Oui. L'église où Dieu m'a appelé. L'église où Dieu m'attend. Je ne serai pas dans mon église. Je ne serai pas dans le lieu où Dieu veut que je sois.
Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ce qu'on doit faire, j'y viens. On va lire un petit peu. 1 Timothée 1, verset 19. Si vous avez la Bible, vous pouvez lire. Je crois que ma Bible est vraiment... Merci. 1 Timothée 1, verset 19. Même, je dirais, à partir du verset 18. 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Je lis. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. La recommandation que je te fais, je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns ont perdu cette conscience. Moi, je peux dire cette éthique. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous avons besoin de garder une bonne conscience. Comment nous pouvons garder la bonne conscience? La bonne conscience dont il est en train de parler ici, c'est la conscience devant Dieu. Devant Dieu. C'est Dieu qui nous donne la bonne conscience dans la parole. C'est Dieu qui nous donne la bonne conscience dans l'enseignement, quand on est dans sa présence. Cette bonne conscience, elle nous indique qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Quelle est la ligne de conduite qu'on va avoir devant Dieu? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle cette bonne conscience. Mais le Saint-Esprit nous a parlé déjà. Le Saint-Esprit nous a enseigné. Nous savons que le dimanche, c'est un jour spécial. C'est un jour qu'on a consacré au Seigneur. Pour que je déplace ce que le temps de culte là, il faut vraiment qu'il y ait un événement spécial qui fait que je ne peux pas y aller. Parce que je n'ai pas rendez-vous avec le pasteur, je n'ai pas rendez-vous avec un homme, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. Et c'est à Dieu que je dois demander. Ce dimanche, voilà, il y a telle chose. Est-ce que je peux m'absenter? Je peux demander à Dieu. Dieu peut dire oui comme il peut dire non. Mais la réponse de Dieu, elle est claire. Le dimanche, on doit le réserver. Pourquoi? Parce qu'on a eu 6 fois 24 heures. Plus, donc nous on a 1h30, admettons on a 2 heures. Plus 22 heures. N'est-ce pas? Ça fait beaucoup d'heures quand même qui sont en nous. Et Dieu dit, j'ai besoin de 2 heures pour moi, chaque semaine. Ces 2 heures-là, tu ne dois pas les bouger. Nous trouvons quand même le moyen de bouger les 2 heures de Dieu et de mettre autre chose sur ces 2 heures. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens du monde, comme tu disais Julien, les gens qui sont autour de nous, ils regardent quelle valeur nous portons à ces choses. Si nous sommes capables de bouger ce temps de culte et de faire ce que nous voulons là, les gens du monde ne vont pas donner d'importance à ce que nous faisons. Parce que pour eux, ton dimanche, tu peux faire ce que tu veux finalement. Est-ce que Dieu est si important? Tu peux mettre ce que tu veux le dimanche. Est-ce que Dieu est si important? C'est à nous de leur faire comprendre que moi, le dimanche, je ne bouge pas. Tu veux être avec moi dimanche? Moi, je suis à l'église. Donc, soit tu viens avec moi à l'église, soit tu attends un autre moment, avant ou après. Mais jamais à ce moment-là, parce que c'est un moment qui est réservé. Ça, ça doit être notre conscience. Parce que les gens vont voir la régularité que nous avons dans les choses de Dieu. Comment est-ce qu'on est régulier? Comment est-ce qu'on est constant devant Dieu? Les gens vont regarder. Et ça va les enseigner. L'éthique que nous avons, ce n'est pas seulement l'éthique de faire du bien. Ce n'est pas seulement l'éthique de dire du bien. C'est aussi l'éthique et qui amène le sérieux dans ce que nous faisons pour Dieu. Et c'est ce niveau de conscience qu'on doit atteindre avec l'aide du Saint-Esprit. Quand je fais les choses pour Dieu, j'ai cette conscience que Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas le Fils de l'homme. Et je vais les faire bien. Je vais les faire avec rigueur. Non pas comme un légaliste qui cherche à faire les choses pour qu'on le voit, mais pour Dieu, devant Dieu. Devant Dieu. Je me dis, je fais les choses correctement. Et c'est cette conscience qui va nous tenir. Vous voyez dans le passage qu'on vient de lire, certains ont perdu cette conscience et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est vrai ce qu'il dit là. Si nous n'avons pas la conscience des choses de Dieu, on va faire des compromis à gauche. Quand je dis compromis, souvent on va penser que c'est pour faire le mal. Le compromis, c'est pas toujours pour faire le mal. Hein? Et non, un compromis, c'est pas pour faire le mal. Le compromis qu'on va faire, c'est pour, comment dire, on va déroger à certaines règles et normes que Dieu nous a définies pour faire autre chose. Ça peut être autre chose de bien. Hein? Les personnes qui travaillent le dimanche, ils font rien de mal, n'est-ce pas? Ils font rien de mal. Mais entre... si tu as le choix entre plusieurs emplois, pourquoi choisir celui qui te fait bosser le dimanche? Parce qu'on te paye plus? Plus que Dieu peut te payer? Parce que quoi? Qu'est-ce que Dieu peut ne pas te donner, que le monde te donne? C'est ça. Nous devons éveiller notre conscience. Quand on a la conscience qui est éveillée, alors, la vie de Dieu va prendre une autre dimension en nous. Nous allons rentrer dans une profondeur, dans la relation avec lui, dans l'échange avec lui. On va rentrer dans une relation d'intimité avec lui, parce que Dieu va dire, voici l'homme, voici la femme, selon mon cœur. Parce que il va voir ce niveau d'intimité. Il va voir que pour lui, nous sommes capables de bouger toute autre chose. On peut tout mettre de côté pour lui. Voici l'homme selon mon cœur. David était capable d'enlever ses vêtements, d'enlever sa gloire de roi, d'enlever tout ce qu'il avait. Et il dansait pour Dieu. Il dansait pour lui. L'homme selon le cœur de Dieu. Pour rentrer dans ce niveau de conscience et d'éthique, on a besoin de tout pousser, de tout mettre de côté et de voir une seule personne devant nous, de voir Christ. Christ encore, Christ devant, Christ ici, Christ derrière, Christ et Christ. Et je veux faire toute chose pour lui. Je veux centrer ma vie en lui. Je rentre dans une autre dimension. Et quand je vais parler de Christ aux gens, les gens vont écouter attentivement. Ils vont dire que je vois la valeur qu'il accorde à ça, c'est important. C'est important, il faut que j'écoute. Même si je n'y crois pas, je vais faire attention à ce qu'il dit. Mais si nous-mêmes, notre éthique, nous la laissons de côté de temps en temps et nous faisons quelques dérogations, quelques compromis, alors, pour les gens du monde, on va les inviter. Viens à l'église. Oh, ben, ça va. De toute façon, toi-même, tu n'y vas pas tous les jours non plus. Viens prier. Oh, mais ça va. De toute Toi-même, tu ne pries pas tous les jours non plus. C'est ça la réponse. Attention, je ne suis pas en train de vous culpabiliser. Je veux qu'on monte dans notre niveau de conscience avec Dieu, personnellement. Et c'est mon travail aussi en tant que pasteur de vous enseigner ces choses. C'est mon travail en tant que pasteur de vous dire quand ça va et quand ça ne va pas. C'est ce que j'ai trouvé. C'est pas, ça ne date pas de que maintenant. Hein. J'ai vu ça toute l'année dernière et cette année aussi. Nous avons tendance à faire des dérogations par rapport aux choses de Dieu dans notre église. Beaucoup. Même des personnes qui invitent des gens de l'extérieur qui viennent, la personne vient, c'est un tel qui m'a invité, mais cet un tel n'est pas là. On s'étonne que les gens ne restent pas. Le niveau de notre éthique conditionne aussi le niveau de, comment dire, de ce que Dieu fait dans notre église. C'est individuel. Mais quand c'est une personne, deux personnes qui font ça, ben ça devient quelque chose de collectif. Et après, ça a des impacts collectifs. Parce que la communion fraternelle, ne vous y trompez pas, on gagne ensemble, Dieu bénit, mais par moments, Dieu regarde aussi et dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce groupe? Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons attirer la bénédiction de Dieu? Dieu nous regarde. Il nous regarde. Tous ensemble. On veut que les choses bougent, que les choses changent. Nous devons tous ensemble nous mettre déjà dans une bonne démarche, dans une bonne éthique, dans une bonne conscience avec lui. On doit se mettre dans une bonne conscience avec Dieu. Si notre conscience n'est pas claire avec lui, alors Dieu va nous regarder de loin. Il va observer notre vie de loin. Et nous ne serons pas, nous n'avancerons pas avec lui. Regardez. Alors, il y a deux passages. 2 Timothée 1, verset 3. 2 Timothée 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres, ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Il peut faire ce témoignage. L'éthique que nous avons, l'éthique va nous bénir ou l'éthique va nous accuser. Parce que notre conscience en nous, là, quand on marche, en fait, la conscience, elle est comme, comment je pourrais dire? La conscience, elle est comme un juge en nous. Et elle observe. Elle observe, est-ce que nous sommes en règle avec la loi de Dieu ou pas? Et si on n'est pas en règle, la conscience va commencer à allumer des warnings rouges. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Tu vas où? Tu vas où? Ce n'est pas là que tu dois être. Elle va s'allumer en rouge. Paul pouvait le dire. Il pouvait le dire. Que je sers avec une conscience pure. Est-ce que nous pouvons dire ça? Nous servons Dieu avec ce niveau de conscience pure? Est-ce que nous sommes en règle avec lui, à l'intérieur de nous, quand nous agissons d'une certaine manière? 2 Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Parfois, quand nous nous souillons notre conscience. La souillure, ce n'est pas seulement le péché. La souillure, c'est le fait d'être D'ailleurs, oui, c'est le péché, parce que le péché, c'est le fait de manquer la cible. Donc la souillure, c'est le fait d'être en dehors de la parole de Dieu et de la pensée de Dieu. Et ça, c'est très important. On a besoin de se rappeler de ça. Regardez 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, c'est-à-dire une conduite cachée, hypocrite. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. En publiant la parole, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est-à-dire que nous sommes clairs, nous sommes visibles en tout devant les hommes. Et que notre conscience n'a rien à se reprocher devant les hommes et devant Dieu. Nous devons avoir cette attitude à l'intérieur de nous. Je ne dois rien avoir à me reprocher devant Dieu. Je parle bien de Dieu. Je ne parle pas des hommes, ni du pasteur, ni des frères et sœurs. Je parle de Dieu. Là, l'éthique dont je suis en train de parler, c'est l'éthique devant Dieu. Comment est-ce que je me tiens devant lui? 2 Corinthiens 1, verset 12. 2 Corinthiens 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ce passage, je serai vous, je l'encadrerai. Car ce qui fait, donc 2 Corinthiens 1, verset 12, car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Waouh! Moi j'aimerais, je vais prier Dieu moi aussi pour que Dieu me fasse rentrer dans ce niveau. Qu'un jour je puisse faire cette déclaration que Paul est en train de faire. J'aimerais atteindre ce niveau de conscience moi aussi. Pour que je dise ma gloire, elle n'est pas dans ce que j'ai fait. Mais c'est parce que j'ai eu une marche dans la pureté devant Dieu, devant la conscience de Dieu. Amen.
Amen.